émission spéciale. Pontac Radio présente le dispositif Petite Ville de Demain avec Didier Larrazabal, maire de Pontac, Jean-Michel Desserré, maire de Limbeil, Joël Segault, maire de Morlas et Thierry Carrère, président de la communauté de communes Nord-Est Béarn. Une émission présentée par Julien Toth.
Et merci d'être avec nous sur Pontac Radio, partenaire médiatique du dispositif Petite Ville de Demain. Ce matin, nous allons tout vous dire sur ce programme d'action lancé au mois d'octobre 2020 par le gouvernement afin de redynamiser 1600 petites villes françaises. Et pour en parler avec nous sur Pontac Radio, Alizée de la Monnerie, vous êtes chef de projet Petite Ville de Demain à la communauté de communes Nord-Est Béarn. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes également aux côtés de Thierry Carrère, président de la communauté de communes Nord-Est Béarn. Bonjour.
Bonjour.
À votre gauche, Didier Larrazabal, maire de Pontac depuis 2008. Bonjour.
Bonjour Julien.
À vos côtés, non, face à vous, Joël Segault, maire de Morlas depuis 2020. Bonjour.
Bonjour.
Et pour terminer ces présentations, Jean-Michel Desserré, maire de Limbeil depuis 2008. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va entrer dès à présent dans le vif du sujet et avant de détailler les projets menés dans les communes de Morlas, Limbeil et Pontac, nous allons découvrir avec vous, Alizée de la Monnerie, ce qu'est exactement ce dispositif Petite Ville de Demain, un programme d'État en faveur du dynamisme des centres-bourgs et de la qualité de vie des habitants. Qu'est-ce que change pour ces communes la labellisation Petite Ville de Demain ?
Oui, eh bien, comme vous l'avez dit, Petite Ville de Demain, c'est un label qui est attribué par l'État et on a la chance dans la communauté de communes du Nord-Est Béarn d'en avoir trois, puisqu'on a Morlas, Pontac et Limbeil. Alors pourquoi ces trois communes ? Eh bien, tout simplement parce que malgré leur petite taille, ce sont des villes structurantes pour tous les villages du territoire. On y trouve des commerces, des écoles, des services de santé, etc. Et ce que ça va changer pour elles, c'est tout simplement d'avoir des moyens supplémentaires pour mettre en place leur projet de redynamisation du centre-bourg.
Et alors concrètement, comment ça se met en place dans les trois communes, sans rentrer forcément dans le détail de ce qui va se faire à Pontac, Morlas et Limbeil, puisqu'on va y venir dans un instant, par quel type d'action ça passe ?
Eh bien concrètement, ce dispositif, il va permettre à la fois de bénéficier des financements de l'État, mais aussi et surtout même de mettre plusieurs partenaires autour de la table, donc des partenaires institutionnels et techniques, pour tout simplement débattre et faire avancer un certain nombre de projets qui visent toujours l'amélioration du cadre de vie des habitants et l'attractivité de la commune.
Petite Ville de Demain, donc un dispositif qui est mis en place sur trois communes. Dans quelques minutes, Morlas sera à l'honneur avec monsieur le maire Joël Segault. Et parmi nos invités, nous avons aussi le plaisir d'avoir Thierry Carrère, président de la communauté de communes Nord-Est Béarn. Merci d'être avec nous. On l'imagine donc, vous êtes fier en tant que président de cette intercommunalité de 73 communes, fier d'avoir trois communes labellisées Petite Ville de Demain.
Alors effectivement, c'est pour nous, c'est une belle satisfaction. C'est aussi une reconnaissance de notre territoire, du Nord-Est Béarn, dans sa dynamique. Et effectivement, cela permet aussi de mettre en avant le rôle primordial de ces trois communes sur notre territoire. Effectivement, comme on l'a dit Alizée, ce sont des communes qui recueillent à leur sein des services publics, d'éducation, des collèges, de sécurité avec les gendarmeries, et aussi des offres de commerce de proximité qu'il s'agit de préserver. Donc le dynamisme de ces communes rayonne sur l'ensemble du territoire. Elles apportent effectivement, avec les services qu'elles ont en leur sein, une vraie plus-value pour tous les habitants du territoire.
Alors vous parlez de ce territoire, près de 35 000 habitants y vivent aujourd'hui en 2022. Le dispositif Petite Ville de Demain est établi sur Pontac, Morlas et Limbeil et pourtant il va profiter, vous le disiez, hein, à toute l'intercommunalité. Mais comment ce lien se fera-t-il entre les trois communes Polarité et le reste du territoire ?
Alors ce lien existe déjà, de toute façon c'est une vraie réalité. Petite Ville de Demain n'a fait que mettre en avant ce qui existe déjà, une vraie réalité aussi d'organisation territoriale et de lien entre les communes. Effectivement, si ces communes gagnent en dynamisme, tout le territoire en sera gagnant. Et ces communes tirent aussi leur dynamique de l'apport des populations extérieures, des autres villages, qui viennent tous les jours dans ces communes consommer auprès des commerces locaux, chercher des services publics. Cela montre aussi qu'il y a une vraie interaction entre les uns et les autres.
Alors ce dispositif, on le comprend, sert à l'ensemble du territoire en accompagnant ces différents projets. Thierry Carrère, vous êtes président de la communauté de communes Nord-Est Béarn. Quel est votre rôle là-dedans ?
Ah ben mon rôle est un peu d'accompagner, de coordonner aussi l'ensemble des actions que l'on mène, certes sur ces trois communes, mais sur l'ensemble du territoire. Actions en termes d'économie, en termes de services publics à la population. Donc le rôle de la communauté commune, est de porter des projets qui ont un rayonnement intercommunal et qui soient profitables à l'ensemble des habitants de notre beau territoire.
Ça, c'est donc au niveau de l'intercommunalité. Quel projet à Pontac dans le cadre des petites villes de demain? La réponse, on l'aura dans quelques minutes avec vous, Didier Larrazabal. Vous êtes donc le maire de Pontac. On va parler pour l'heure de Morlas avec vous, Joël Sego. Un petit jeu comme ça pour commencer. Je vous mets au défi de présenter votre commune, Morlas, en moins d'une minute. Est-ce que vous pensez en être capable de tenir une minute? Il y a beaucoup de choses à dire.
J'avais prévu d'y passer 9 minutes 30. Bon, j'ai essayé de synthétiser en une minute. Donc Morlas, c'est d'abord la capitale historique du Béarn, ce qu'on ne rappelle pas assez souvent, à mon sens, avec un passé donc très riche, quoique éparpillé aujourd'hui. Donc c'est une ville de 4600 habitants, donc une polycentralité qui est liée à une multiplicité d'anciens bourgs historiques. C'est une position privilégiée aussi dans la périphérie de Pau, avec beaucoup de projets engagés, une attractivité donc qui est aussi en pleine expansion, eu égard à la proximité de Pau également, et aussi l'attrait pour les zones périurbaines aujourd'hui qui est dans l'air du temps.
Et vous avez tenu une minute, c'est bien. Je rajouterai aussi pas mal de moments festifs. À Morlas, c'est une ville où on aime bien faire la fête, qu'il s'agisse des fêtes de Morlas, que j'aime beaucoup, ou bien du salon du vin, de la gastronomie. Il y a, je crois, 1500 visiteurs chaque année à
Morlas.
D'ailleurs,
je saisis la balle au bon pour dire que le prochain salon du vin, pour sa 11e édition, donc, va être... se retrouver donc dans la salle polyvalente de Morlas pour le week-end du 9, 10 et 11 mars prochain. Alors nous espérons vous y voir très nombreux. La plupart des exposants présents les années précédentes, sauf l'année dernière pour cause de Covid, seront présents. Donc toutes les conditions seront réunies, j'espère, pour qu'on retrouve un moment de convivialité et de plaisir autour de bons produits et de dégustations qui, j'espère, nous pourront se dérouler normalement.
Et on y sera avec grand plaisir. Merci. On est des bons vivants chez Pontac Radio. On parle donc des petites villes de demain, ce dispositif d'État dont la ville de Morlas a bénéficié. À Morlas, donc, un projet de revitalisation du centre-bourg a vu le jour en 2017, avant même l'arrivée des petites villes de demain. Est-ce que vous pouvez nous parler des 5 grands défis de ce projet?
Oui, alors c'est vrai que ce travail a débuté en 2017, par un projet qui s'appelle Morlas 2030, avec différents axes, effectivement, dont les enjeux principaux sont d'abord maintenir la centralité du centre-bourg, dynamiser son activité économique, mais pas que, lutter contre la désertification des commerces et des services et la baisse d'attractivité du centre-bourg, pacifier et sécuriser l'accès aux équipements, commerces et services du centre-bourg, et aussi valoriser l'environnement, le patrimoine, la qualité de vie, le cadre de vie également. C'est des choses qui nous sont chères et que nous avons l'intention de décliner dans nos projets futurs, dont on pourra parler un peu plus en détail tout à l'heure.
Et justement, vous êtes accompagné par Alizé de la Monnerie dans ces projets que vous menez à Morlas. Alizé, en quelques mots, le projet qui retient le plus votre attention à Morlas en ce moment, c'est lequel?
Alors à Morlas, il y a de nombreux projets, mais s'il fallait parler d'un seul... je vais prendre un thème d'actualité. On travaille avec des ambassadeurs, donc qui sont des groupes d'habitants, de commerçants et d'élus locaux. Et récemment, on les a consultés autour d'une opération qui consiste à implanter une passerelle piétonne, et pour les vélos également, le long de la Gouttière. Enfin, sur la Gouttière.
La Gouttière, donc une rivière qui passe,
oui,
à Morlas.
Qui est la rivière qui parcourt le centre-bourg, effectivement. Et donc cette passerelle va permettre de relier... le collège, la place de la Ourcq et un certain nombre d'équipements à un quartier d'habitation. Donc voilà, c'est un vrai projet très concret, en tout cas, qui va démarrer prochainement.
Alors justement, ce projet donc, de passerelle sur la Gouttière, il devrait voir le jour quand? Par quel biais, Monsieur Sego?
Alors, nous sommes accompagnés dans ce projet par l'APGL, donc on ne va pas faire dans les acronymes. Donc, c'est l'Agence publique de gestion locale qui accompagne les communes sur d'autres projets aussi. Donc, le principe et la réalisation, donc, c'est à l'horizon fin d'année, septembre-octobre 2022 pour une mise opératoire. Donc, l'idée, c'est de poursuivre également un cheminement que nous mettant en place le long de ce ruisseau qui traverse la commune, comme le disait Alizé, et de rappeler également que c'est le long de ce qui s'appelle le chemin, aujourd'hui le chemin de la ligne, qui est un vestige de l'ancienne ligne de tramway qui reliait Pau à Limbeil et Aire-sur-Adour. Nous avons encore d'ailleurs à ce propos le vestige de l'ancienne gare que nous souhaitons réhabiliter et donner vraiment un focus sur ce lieu quand même emblématique de la ville qui n'est pas suffisamment mis en valeur, et aussi ce patrimoine qu'est l'ancienne voie ferrée. Lesquels rails de la voie ferrée d'ailleurs sont aujourd'hui servent pour les bestiaux lors des marchés, des foires qu'il y avait, qu'il y a encore à Morlas, la journée de l'élevage qui aura d'ailleurs en septembre, j'en profite de cette occasion, la journée départementale de l'élevage se déroulera à Morlas le premier week-end de septembre, et donc les bêtes qui seront présentes ce jour-là seront attachées donc sur les rails qui sont les vestiges de l'ancienne voie ferrée dont je parlais à l'instant.
D'autres projets sont également en train de voir le jour à Morlas. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux ?
Il y a plusieurs projets qui sont plus que dans les tuyaux, en fait, hein, qui sont aussi en phase d'étude et pré-opérationnels. Donc nous travaillons avec la CEPA, qui est notre organisme, dans une phase d'étude de l'îlot de la Tour, qui est un espace qui était autrefois les anciens établissements Menjuc, pour les anciens qui connaissent certainement ce lieu, donc qui avait été racheté par les communes dans les années 80. Donc aujourd'hui, c'est un espace où il y a la mission locale, par exemple. Il y a pas mal de locaux destinés aux professions libérales et médico-sociales. Le tiers-lieu de Morlas, c'est sur cet espace également. Il y a un laboratoire, un ex-laboratoire d'analyse qui a migré ailleurs, mais dont les locaux sont toujours présents. Il y a un centre de radiologie qui est en mutation aussi. Et nous avons un projet donc de réhabilitation par de l'habitat aussi de cette zone, puisque nous sommes propriétaires d'une partie de l'îlot d'habitat qu'il y a à proximité. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à une jonction entre cet espace et la place Sainte-Foy, qui est le cœur de ville. Et ce serait en fait un pré-cœur de ville qui serait aménagé, donc avec aussi, bien sûr, une liaison avec d'autres quartiers de la ville, par des cheminements doux et des commerces qui viendraient se greffer aussi là-dessus. Donc on serait vraiment pleinement dans le développement
du centre-ville.
Du centre-ville et de l'attractivité du centre-bourg par les commerces, le cadre de vie et l'habitat.
Parmi les autres secteurs d'aménagement qu'on a pu identifier grâce aux petites villes de demain et à cette étude qui a été menée donc en 2017, il y a deux entrées de ville, côté Marcadet pardon, et Cordeliers. Quels sont les projets rapidement sur ces deux entrées de ville ?
Alors, sur plutôt côté Cordeliers, donc on est aujourd'hui dans une phase de fouille archéologique puisque nous sommes situés dans le périmètre de l'église Sainte-Foy, et donc nous sommes tenus donc à procéder à des fouilles sur des vestiges, notamment d'un ancien couvent, le couvent des Cordeliers, en l'occurrence éponyme du stade. Donc les fouilles préalables avaient commencé l'année dernière, et donc une deuxième, troisième tranche devrait se poursuivre donc sur le dernier trimestre 2022. Parallèlement, donc, nous avons commencé un réaménagement de voirie le long de l'ancien stade des Cordeliers, ça s'appelle la rue de la Placette, dont l'aménagement va voir le jour d'ici le mois de juin 2022, donc très très rapidement, avec aussi un cheminement apaisé en termes de circulation automobile, de vitesse automobile aussi, ce qui est un credo pour nous très important dans l'aménagement du centre-bourg. Nous constatons, comme mes collègues, je pense, beaucoup de vitesse automobile dans ces secteurs, et nous souhaitons travailler à des modulations permettant d'apaiser la vitesse automobile. Donc cet axe irait de la rue des Cordeliers, qui est un secteur central aussi de la commune, à la place de l'Orqui, qui est le lieu du marché, lieu d'animation, lieu festif et sportif également, avec un aménagement aussi des voiries, des carrefours correspondants pour qu'il y ait davantage de sécurisation des déplacements piétonniers, cyclables notamment.
Ça se fasse, oui, dans le calme et la sécurité de tous, on le comprend bien.
Autant que faire se peut.
Exactement. Joël Segaud, je rappelle que vous êtes donc le maire de Morlas. On parle de ce dispositif Petite Ville de Demain, et Alizé de la Monnerie, tout à l'heure, vous évoquiez des rencontre d'ambassadeurs, c'est quelque chose qui a été mis en place pour faire participer les populations donc aux choix qui sont faits sur les communes dans le cadre des petites villes de demain. La première réunion a eu lieu à Morlas. Qu'est-ce que vous en retenez de cette première réunion, Joël Segaud ?
Écoutez, beaucoup de richesses de par déjà la diversité des acteurs présents. Donc il y avait à peu près 25 personnes, c'était le 18 janvier dernier. Beaucoup d'échanges, beaucoup de curiosités. Donc nous avons rappelé le dispositif, les enjeux de Morlas 2030 et de Petite Ville de Demain. Donc il y a eu des échanges assez riches, de la volonté de participer. Donc je disais de la curiosité quant aux projets qui vont être développés, mais aussi des apports de chacun, y compris des élus d'autres communes. Et comme le rappelait le président Thierry Carrère, c'est vrai que l'idée, c'est de travailler aussi pour le territoire et avec le territoire, notamment en termes de voiries connexes, de liaisons et de services mis à disposition aussi pour la commune et ses habitants, mais aussi les habitants du territoire et de la périphérie de Morlaàs.
Évidemment, donc, ce genre de réunions se font également à l'MBM et Pontac, on en reparlera dans un instant. Et parmi les prochains rendez-vous, et là je me retourne vers vous, ma chère Alizée, il me semble, et c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, que le 29 mars à Morlaàs, un temps d'échange aura lieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ?
Alors, pour le moment, on n'est pas arrêté sur la date. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a terminé, si vous voulez, le premier cycle de rencontres des ambassadeurs dans chacune des communes. On essaye de faire ça de manière assez homogène sur les trois villes. Et donc, au mois de mars-avril, il va y avoir un nouveau cycle d'ateliers qui concerneront cette fois des thématiques différentes. Donc, ça pourra être, par exemple, sur l'habitat. Comment réhabiliter le patrimoine ancien, réinvestir le centre-bourg. Ça pourrait être également à Pontac sur le volet patrimonial, puisqu'on travaille sur un parcours de valorisation du centre-bourg. Et puis sur l'Imbeil, on verra, on a travaillé une première fois avec les producteurs, donc voilà, c'est encore à construire.
Justement, vous parlez de l'Imbeil, n'hésitez pas, vous, à la maison, à réagir à cette émission, à poser pourquoi pas des questions à Jean-Michel de Serré, maire de l'Imbeil, puisque dans un instant, ce sera à son tour de nous présenter les actions mises en place dans sa commune à travers le dispositif Petite Ville de Demain.
Pontac Radio présente le dispositif Petite Ville de Demain. Pontac Radio revient dans un instant.
La meilleure vitrine pour vous faire connaître et faire parler de vous, Internet et les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas le temps ou pas les compétences, faites appel à l'agence Kinteba à Naï, qui accompagne les associations, les entreprises et les artisans. Création de sites Internet, de boutiques en ligne, référencement Google, gestion des réseaux sociaux, mais aussi formation et coaching pour apprendre à être plus visible sur le web et les réseaux sociaux. Contactez-nous au 06 76 97 09 11 ou sur kinteba.fr. Q-U-I-N-T-E-B-A.
Santé! Cela vous rappelle la bonne odeur de l'Italie? C'est que vous êtes à côté de la piazzetta. La piazzetta, ce sont des pizzas avec une pâte faite maison et une garniture à base de produits locaux. La piazzetta existe depuis 1995 et la tradition italienne se perpétue à Pontac avec Nico depuis 2007. Le bon goût de l'Italie, c'est tous les soirs entre 18h et 21h30 et tous les midis, sauf les mercredis et dimanches, de 11h à 13h30. La piazzetta, 3 rue de la République à Pontac. Commandez au 07 81 256 900.
Pour votre santé, bougez plus. On a tous acheté de la viande au supermarché, hein? 500 grammes sur le paquet, 50 dans l'assiette, sans goût, dur comme de la pierre. Eh bien moi, depuis que j'ai découvert la boucherie Lagus, j'ai redécouvert le vrai goût de la viande. Tendre et savoureuse. Une viande produite par des éleveurs locaux. En plus, Sébastien, Florence et Luc sont à votre service du mardi au samedi et ils vous livrent à domicile.
Une véritable boucherie et charcuterie traditionnelle à Pontac, c'est Lagus, au 7 rue de la République. 05 59 53 64 89.
Le samedi matin, jour de marché, il faut rôtisserie.
Ce que tout le monde devrait savoir en matière d'immobilier, c'est que 3 agences locales, c'est mieux qu'une nationale. L'agence européenne est présente à Pontac, mais aussi à Lourdes et Argelès-Gazost. Ses 14 conseillers sont spécialisés dans les domaines de la vente, maison, appartement, terrain, villa et corps de ferme. L'agence européenne, c'est aussi les spécialistes en location, gestion et syndic de copropriété. Depuis plus de 30 ans, l'agence européenne est proche de vous. Et à Pontac, votre référente, c'est Magali. 05 59 53 64 08 ou www.agence-européenne.com.
1975
2021. L'automobile évolue, mais il faut toujours un permis. Et avec l'auto-école La Pyrénéenne, tout est permis. Boîte manuelle ou automatique à partir de 1 euro par jour. Sans oublier le permis remorque, moto, poids lourd ou transport en commun. Tu as plus de 6 mois de permis ? Réduis ta période probatoire avec une formation post-permis. La Pyrénéenne, c'est aussi la conduite accompagnée et les stages de récupération de points. L'auto-école La Pyrénéenne, à Tarbes, Naï, Lourdes, Soumoulou et Pontac. Appelle Elodie au 06 86 80 39 89 ou sur www.lapyrénéenne.net.
Il y a des lieux qui sont une vraie douceur pour le palais et pour le cœur. Le restaurant de la Tour Alain Bey, votre adresse gourmande incontournable dans un ancien relais du XVIIe siècle. Une cuisine gastronomique créative et raffinée, saupoudrée parfois de quelques saveurs marocaines, une note sucrée-salée qui invite au voyage. Des produits frais, de qualité, issus de cycles courts. Stéphane le chef et Michel Ansal vous accueillent chaleureusement dans ce lieu unique et original. 3 salles à votre disposition pour tous vos événements professionnels ou familiaux. Le restaurant de la Tour, 29 place Marcadieu, Alain Bey. 05 59 68 97 16. Pour votre santé, bougez plus.
Émission spéciale. Pontac Radio présente le dispositif Petite Ville de Demain. Avec Didier Larrazabal, maire de Pontac. Jean-Michel Desserré, maire de Limbeil. Joël Segault, maire de Morlas. Et Thierry Carrère, président de la communauté de communes Nord-Est Béarn. Une émission présentée par Julien Tott.
Et merci d'écouter Pontac Radio. Ce matin, nous évoquons la mise en place du label Petite Ville de Demain dans les communes de Pontac, Morlas et Limbeil. Et notre prochain invité, c'est Didier Larrazabal, le maire de Pontac.
Le dispositif Petite Ville de Demain.
Didier Larrazabal, rebonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs.
Que vous êtes le maire de Pontac depuis 2008. Et alors je vous propose le même défi qu'à votre confrère Joël Segault, 60 secondes pour présenter Pontac.
Ça me paraît court, mais on va essayer. Donc, trois points importants pour la présentation de Pontac. C'est une ville qui est une petite cité béarnaise de 3000 habitants, aux confins de Béarn-Bigorre, qui occupe, je dirais, une place privilégiée au sein du triangle Tarbes-Lourdes. Et Pau, et elle profite d'un splendide panorama, évidemment, avec les Pyrénées en toile de fond. C'est comme aujourd'hui, vraiment, on a une chance inouïe. Mais je voulais souligner que elle fut quand même la capitale régionale du tissage, de la tannerie et de la chaussure il y a quelques années en arrière. Pour l'histoire, c'est une ancienne ville gallo-romaine, qui ne reste que l'ancienne ville, la vieille tour que nous avons du XIIIe siècle, avec une partie des remparts, mais aussi une église gothique du XVe siècle qui est l'église Saint-Laurent qui est bien connue et avec des ruelles typiques autour de la tour et autour de Saint-Laurent sur lesquelles nous allons nous affairer à mettre en valeur dans, je dirais, dans les années à venir. Voilà, mais aussi avec ces armoiries qui montrent une oie
à laquelle vous tenez.
À laquelle je tiens énormément, une oie qui s'égosillant et donnant l'alerte telles les oies qu'on connaît du Capitole, avec cette devise « Melior vigilentia somno »
que vous allez traduire
en latin,
par...
qui veut dire en français « Il vaut mieux veiller que dormir ».
Et on va parler aussi de la partie un petit peu festive. Je vais peut-être faire le coup sur les trois villes, mais c'est vrai que Pontac est une ville très festive, sportive également, avec de nombreux festivals, soirées sportives et des clubs. On parlait en off des papillons de Pontac, qui donc, ont donc été créés en... C'était juste pour voir si vous l'aviez, 1905.
Exactement.
Pardon.
Mais je voulais terminer avec aussi le bien vivre à Pontac et avec les commerces. C'était riche de ses artisans, beaucoup de commerçants, plus de 30 commerçants à Pontac, 65 associations. Pontac est un chef-lieu de canton, une cité dynamique. On est fiers de notre passé historique et économique et elle regarde avec confiance évidemment son avenir et souhaite rester encore longtemps un lieu privilégié où il fait bon vivre et d'où notre slogan « Bien vivre Pontac ».
Merci monsieur le maire de Pontac. Alors vous l'avez compris, on va parler de Pontac maintenant dans cette émission dédiée donc aux petites villes de demain avec en 2019 une étude urbaine qui a vu le jour. Elle a abouti cette étude urbaine à un plan guide. Alors on va essayer de détailler quand même tous ces mots un petit peu compliqués. Le plan guide, il donne des aménagements qui pourraient voir le jour dans ce centre-bourg. Quels sont déjà les principes d'un plan guide? Peut-être que je vais me tourner vers vous, Alizée de la Monnerie, vous allez nous aider.
Oui, eh bien, plan guide, comme son nom l'indique, c'est tout simplement une feuille de route, si vous voulez, pour les années à venir. Alors, ça peut être pour 10, 15 ans, qui permet d'avoir une vision à long terme du développement de la commune. Donc, ça prévoit un certain nombre d'aménagements, mais pas seulement. L'idée, c'est d'avoir des orientations sur le commerce, comment est-ce qu'on va le densifier, le développer dans le centre-bourg, les espaces publics, comment on va faire en sorte qu'ils soient agréables, peut-être
comme une charte,
piétonner, comme une charte, mais qui va un peu plus loin. C'est pas un règlement, c'est vraiment des objectifs stratégiques.
Alors ces objectifs stratégiques, ils ont des enjeux. Tout d'abord, peut-être pacifier, sécuriser les déplacements dans le bourg. Il me semble que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, monsieur Larrazabal.
Oui, effectivement, ça me tient à cœur puisque nous avons maintenant, depuis le 3 janvier 2022, la venue du collège, du nouveau collège, mais on va dire du collège aujourd'hui, Jean Bouzet, que vous avez juste en face les studios, que mes collègues présidents ont pu pas découvrir, mais pour certains, oui, je pense, donc qui a rassemblé, qui a resserré un peu le centre-bourg, et évidemment, ça amène de la densité, ça amène de l'urbanisation. Pontac aujourd'hui est une ville qui est, sur laquelle les gens ont envie de venir construire, ont envie d'habiter. On voit bien, les maisons montent de jour en jour. On a aussi un dossier d'une 34 logements autour du collège, ce qui fait qu'il faudra penser effectivement à toutes ces cette façon de comment regagner le centre-bourg, les sécuriser. Et faire venir aussi tous ces gens au centre-bourg, alors que nous avons une zone d'activité qui marche très très bien, mais on a un cœur de village qui est extraordinaire. Je partageais un café tout à l'heure avec Alizé, on était sur la terrasse, il y avait une quinzaine de personnes encore pour Pontac, un mercredi midi, nous avons 4 bars, 4 restaurants, je veux dire, il y a de la vie. Il faut tirer les choses par le haut parce que si on pense qu'on a ce qu'il faut en termes de dynamisme commercial, eh bien on va retomber. Donc tout ça, l'avenir, c'est de travailler sur la sécurisation, comment faire venir les gens au centre-bourg pour qu'ils puissent se garer, pour qu'ils puissent fréquenter nos commerces. Parce qu'aujourd'hui, des commerçants viennent s'installer à Pontac. Nous avons un laboratoire d'analyse médicale qui vient s'installer, nous avons une brasserie qui vient s'installer, nous avons une restauration rapide qui vient de s'installer.
De nombreux commerces sont aussi dans les tuyaux, hein, d'après ce...
Et de nombreux commerces autres qui vont venir. On a un village de métiers, d'artisans qui va peut-être voir le jour d'ici 2-3 ans. Bon, je veux dire, tout ça, c'est bien, mais il va falloir organiser toutes ces... je dirais tous ces parcours sécurisés, comme le disait mon ami Joël Segaud tout à l'heure. On va instaurer des zones à 20, des zones à 30. Je ne pense pas qu'à Pontac ils aient l'habitude de voir ça, les habitants. Il va falloir faire de l'information. Ça ne sera pas facile.
On le comprend bien, l'idée c'est d'attirer du monde à Pontac, mais c'est aussi de sécuriser leur déplacement d'une zone à l'autre de Pontac. Si je résume bien, c'est ça en fait.
Voilà, il va falloir organiser des voies douces pour nos jeunes. Il va falloir organiser aussi toute l'avenue Henri IV qui va être refaite et dont on va regarder l'aménagement, qu'elle soit fonctionnelle, qui est l'aspect sécuritaire, mais aussi le côté esthétique. Et tout ça, on le partage avec nos 30 ambassadeurs qui ont déjà fait une réunion autour du maire avec Alizé pour Petite Ville de Demain, et sur lesquels on va trouver des solutions. Et je crois que c'est bien parti.
Vous parliez de l'avenue Henri IV. C'est un des principaux sujets ici aujourd'hui à Pontac avec les Petites Villes de Demain. Mmh. On reste un petit peu quand même sur ce plan guide mis en place en 2019 avec le deuxième point important, c'est la mise en valeur du cadre urbain. Mettre en valeur aussi le paysage et le patrimoine, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, on l'imagine.
Disons que tout ce qui est patrimonial à Pontac est important. Nous avons une association Pontac Ribérousse. Patrimoine Henri Berrousse. On a une chance inouïe d'avoir des gens comme Noël Paradis, qui en est le président et qui tire par le haut tout ça et qui montre à quel point on a besoin, on est fiers de ce patrimoine à Pontac. Et c'est vrai que cet écho du patrimoine fait... donne envie aux gens qui habitent Pau, qui habitent Tarbes, qui habitent Lourdes de venir voir Pontac. Je suis surpris par le nombre de gens qui passent à Pontac. Je suis surpris par la progression de notre marché. Je suis surpris par la fréquentation des gens qui viennent boire un pot le samedi matin à Pontac. Je veux dire, on est en train de créer un dynamisme que je n'ai pas connu depuis longtemps.
Alors, au-delà des déplacements intracommunaux et du renouvellement urbain, vous souhaitez notamment réinvestir aussi les espaces bâtis non utilisés. Ça passe par quelles actions concrètement ?
Alors les espaces bâtis non utilisés, ça passe aussi avec la communauté des communes Nord-Est Béarn.
Présenté ce matin par Thierry Carrère, son président.
Voilà, qui est président, mon président est à ma droite, et qui va m'aider peut-être à développer. Il me fait signe que oui, donc c'est pas un souci. Mais nous avons une entreprise dernièrement qui a fermé ses portes. Cette ville de Pontac était riche sur le plan économique. Nous avions avions des entreprises où il y a eu jusqu'à 220 employés. Pour ne pas la citer, c'était Arcus. Il y a eu du tissage.
Il y a eu des chaussures Arcus.
Donc, bon, hier, on a eu une entreprise qui était dans l'aéronautique, qui était un sous-traitant de l'aéronautique qui a fermé. Mais bon, je suis réjoui d'entendre dire que sûrement que nous avons un porteur immobilier venant de Toulouse et qui a signé un sous-sein pour acheter cette entreprise et pour y créer un village d'artisans. Pour moi, c'est beaucoup. Et ensuite, des friches à l'intérieur pour mettre des commerces purs, mais il n'en reste plus beaucoup. Je crois qu'on va être pauvre, je suis en train de les compter, je crois qu'on doit avoir une ou deux vitrines qui nous restent, et on en aura fait le tour. Donc,
Alizée de la Monnerie, pardon monsieur le maire, hein, vous voulez réagir par rapport à cette question de friches et de vitrines ?
Oui, effectivement, Pontac a la particularité d'avoir ce passé industriel qui est très riche et qui aujourd'hui doit se renouveler. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est d'aller reconquérir ces espaces. Vous parliez tout à l'heure du commerce. On a en plein centre-bourg, au niveau de la place, une maison qu'on est en train de racheter avec là une vitrine qui aujourd'hui est vide et qui, dès demain, grâce à l'acquisition de ce bien, va pouvoir trouver une seconde vie, en tout cas avec l'installation d'un nouveau commerce qu'on ne connaît pas encore, mais c'est tout l'objectif.
Alors j'allais le garder parce que c'est un petit scoop, j'allais le souligner évidemment, ça me fait grandement plaisir puisque aujourd'hui sur la place de Pontac, la place Uning en face de le central, cette maison, dite la maison de Tubier, a été rachetée depuis fin de semaine dernière.
Oui, c'est tout frais.
Donc avec le partenaire qui est le PFL.
Alors qu'est-ce que c'est le PFL ?
Alors le PFL c'est, mes collègues, vous n'allez pas m'aider mais je vais vous le dire.
Établissement public foncier local.
Voilà, c'est mon président qui est à côté et de moi, heureusement qu'il est
heureusement,
là,
ouais.
Mais je l'avais noté, mais comme je ne vois pas bien clair, je ne le retrouvais pas. Donc
vous avez pu acquérir cette maison grâce à cet organisme.
Donc maintenant, cette maison, c'est une maison importante de plein centre-bourg. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Je peux pas le développer ni dire quoi que ce soit dessus, puisque c'est une consultation avec l'ensemble du conseil municipal, mais aussi dans le cadre de Petite Ville de Demain, avec les 30 ambassadeurs, pour échanger, pour savoir quel sera le devenir de cette maison de Tubier. Mais en tout cas, avec le dynamisme qui se met en place dans cette ville de Pontac, on ne manquera pas d'idées. Mais il ne faut pas se tromper.
On le comprend bien, les petites villes de demain permettent d'encadrer et de développer le renouvellement urbain ici à Pontac. Au niveau plus global, ce projet que vous menez aujourd'hui s'appelle Pontac Contre-Attaque. C'est un nom assez vendeur. On imagine beaucoup d'envie derrière, beaucoup d'investissement. Pourquoi ce nom ?
Oui, comme je disais, Pontac Contre-Attaque, parce que nous avons été au creux de la vague, mais bon, tout ce que nos entreprises confirmaient. Mais il ne faut pas se résigner, il faut une politique volontariste, dynamique, avec un élan partagé, en tout cas. Et je compte sur l'ensemble, dans Petite Ville de Demain, je mets Pontac, mais je mets surtout tous les villages qui sont autour de Pontac. Si Pontac est ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas qu'avec les habitants de Pontac, ce sont avec tous les villages qui entourent Pontac qui font travailler Pontac.
Et on parlait tout à l'heure, pardon, des échanges avec les Pontacais et pas que, du coup, grâce aux réunions d'ambassadeurs. On a vu d'ailleurs que dans les réunions d'ambassadeurs à Pontac, les présents venaient aussi parfois de Barzun, parfois de la marque Pontac. Preuve étant une nouvelle fois que les projets de Pontac servent aux autres communes autour, idem pour Lembeye, dont on va parler dans un instant, et pour Morlas. Quels sont les prochains rendez-vous à Pontac pour les Pontacais et les voisins, du coup ?
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que le groupe d'ambassadeurs était constitué de 30 ambassadeurs, d'élus, de commerçants, et commerçants de Pontac et des villages voisins, des habitants de Pontac et des habitants des villages voisins, et des membres d'associations de Pontac et des membres d'associations des villages voisins également. Donc, tout ça constitue les 30 ambassadeurs. C'est-à-dire que vraiment, il y a une toile qui est tissée autour de cette ville de Pontac, de façon à ce qu'on touche tous les gens qui viennent à Pontac, qui font travailler Pontac, et qui nous amènent cette ville, ce qu'elle est aujourd'hui, 3000 habitants, jeudi, et beaucoup de dynamisme et d'envie de bien faire.
Voilà pour les projets menés dans le cadre des petites villes de demain à Pontac. Je me retourne une nouvelle fois vers vous, ma chère Alizée de la Monnerie. Je rappelle que vous êtes chef de projet Petites Villes de Demain à la communauté de communes Nord-Est Béarn. Les prochains rendez-vous à Pontac, c'est vous un petit peu qui coordonnez tout ça. Donc je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble qu'on parle aussi du mois de mars.
Oui, effectivement, fin mars, comme je le disais tout à l'heure, l'idée ce sera de proposer aux ambassadeurs de faire une sorte de parcours de valorisation du patrimoine, de tester en tout cas plusieurs possibilités de parcours et de voir aussi de quelle manière on peut valoriser à travers des outils les magnifiques bâtiments qui se trouvent dans le cœur de ville.
Monsieur Larrazabal, peut-être un dernier mot
Sur Pontac Contre-Attaque, parce qu'après je n'ai pas terminé avec les projets structurants, mais sur le Pontac Contre-Attaque, je dirais c'est un peu le signe du refus de la fatalité, comme je disais, mais c'est la volonté clairement affichée d'une équipe municipale qui veut plus pour ses administrés. À Pontac, on a tout. Nous, on veut plus encore.
Alors c'est qu'est-ce clair. Que vous voudriez encore plus
C'est-à-dire tout ce qu'on vient de développer, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la maison de Tubier, rafraîchir le centre-ville, la revitalisation du centre-bourg, nous avons tout l'assainissement qui va être refait, la maison de Tubier telle qu'on le disait, l'avenue Henri IV...
Oui, dont on n'a pas parlé, vous faites bien de le dire.
Eh bien oui, il a tout l'assainissement, toute la revitalisation du centre-bourg, la maison de Tubier également, tout le syndicat de l'eau également, Dégave, qui est en train de travailler sur l'eau, puisque nous sommes sujets à des débordements de lousse catastrophiques de cette année. On a eu deux fois des frayeurs pas possibles, des crues, donc on y travaille aussi. On a le lotissement Matelier qui offre des logements neufs complémentaires juste
à côté. Juste derrière le collège dont on parlait tout à l'heure.
Mais aussi quelque chose d'important, on a une friche industrielle qui est la friche Montbrun. Je ne veux pas faire peur, mais qui fait partie des 5 friches industrielles, je dirais, les plus dégueulasses de la Nouvelle-Aquitaine. Donc je crois qu'il est temps qu'on se remue, parce que je ne veux pas rester là. Je crois que cette friche, il va falloir que l'État s'y mêle, et donc je viens de saisir monsieur le préfet, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, les choses se fassent. On ne va pas attendre qu'une catastrophe arrive pour commencer à parler du travail et des travaux qui ont à faire sur cette tannerie qui me fait très très peur parce que Bellou se déborde de plus en plus, de plus en plus haut et on va avoir une catastrophe tôt ou tard. Merci. On n'a pas parlé non plus de tout ce qui est animation.
Oui.
L'animation, donc le marché de Pontac le samedi matin qui va changer un peu de façon de procéder, peut-être un peu plus dynamique également, mais aussi dans le cas de l'animation, on parlait de loi tout à l'heure.
Oui, il y aura une fête, il me semble.
Il y aura une fête qui sera organisée dédiée à loi. Je pense qu'on va s'en souvenir, que les Pontacaises et les Pontacais, tous nos villages voisins et ceux qui voudront se joindre à nous s'en souviendront. Ça sera une grande fête autour de loi. Et puis pour terminer, dans les projets structurants, l'avenir Henri IV, j'en ai parlé, mais aussi tout l'ancien camping qui a été donc racheté par la municipalité pour en faire un terrain de sport avec tout le déménagement de nos associations à l'ancien collège sur lequel va se retrouver tous nos tennis, les boules, la piscine je dirais sur la gouvernance de la communauté des communes, mais aussi tout le city stade qui est tout neuf avec je dirais un terrain de sport qui sera dédié soit au foot soit au rugby, nous savons pas encore dans le déplacement, mais qui sera bordé d'arbres et de tables, de barbecues, enfin que les associations ou des pontaquais qui habitent dans des appartements ou autres pourront se partager un moment festif à l'extérieur. Voilà, c'est tous ces grands projets structurants qui sont en vue, je dirais, pour les années à venir sur Pontac, et notamment une grande partie sur le mandat qui n'est pas terminé encore.
Avec un large centre-bourg qui sera redynamisé, on l'entend bien, à Pontac. Merci Didier Larrazabal, vous restez bien sûr avec nous, puisque
avec
nous
plaisir.
Allons de suite parler avec vous, Jean-Michel de Serré, vous êtes le maire de Limbeil. Et nous allons donc parler de ces projets, Petite Ville de Demain à Limbeil, mais avant ça, même exercice que vos confrères Joël Segaud et Didier Larrazabal. J'imagine que vous connaissez par cœur cette commune de Limbeil, du coup une petite minute pour la présenter. Est-ce que ça vous semble jouable?
Oui, très jouable.
Je vous écoute.
J'ai pour habitude de synthétiser. Limbeil, première chose, c'est la traduction de l'envie en béarnais. Donc ça veut déjà dire beaucoup de choses. Limbeil, c'est un village de caractère avec des personnages de caractère. Limbeil, c'est un village aussi qui a un passé riche, une histoire riche, avec un patrimoine aussi existant qu'il nous faut contribuer à préserver, qui est important et qui est de qualité. Et puis Limbeil, c'est un ancien chef de canton, pour l'histoire plus récente, qui était jusqu'en 2014, jusqu'à la réforme du découpage des cantons, ça. Qui était chef d'un canton de 5300 habitants. Limbeil est comptant elle-même 800 habitants, et avec une forte vocation de centralité, une identification très forte aussi des habitants de ce territoire, de ce canton, on va dire globalement, au centre-bourg de l'Embeil, de par les services et les commerces que propose la commune.
Alors pas mal d'équipements structurants aussi à l'Embeil, hein, c'était aussi le cas à Morlas et Pontac, des collèges, écoles, terrains de sport, mais également, et j'y reviens, des événements festifs à l'Embeil, les fêtes, les soirées béarnaises ou bien encore les foulées du Vic-Bil qui accueillent chaque année de nombreux visiteurs. On imagine que vous y participez, monsieur le maire.
Oui, j'y participe, les fêtes, je suis un peu un acteur important du renouveau des fêtes de l'Embeil qui sont redevenues un rendez-vous reconnu à l'échelle de tout, on va pas dire tout le Béarn, mais c'est pas loin, hein, et on espère que...
Et d'une partie du Madiran.
Qu'après cette période de pandémie, on retrouvera des fêtes en août 2022.
Comment vous avez pris cette nouvelle quand vous avez su que la ville de l'Embeil allait être labellisée petite ville de demain?
J'ai pris cette nouvelle comme je prends en général les nouvelles, c'est-à-dire avec beaucoup de prudence et un peu de détachement, parce que je suis toujours un peu méfiant. Et pour le coup, j'ai l'habitude, je l'ai déjà dit, je suis assez agréablement surpris et j'espère que ça durera, puisque le dispositif et le programme est censé se dérouler sur 5-6 années jusqu'en 2026. Pour l'instant, on est quand même dans l'action, dans des choses assez pragmatiques, dans des choses assez concrètes. On associe la population via les groupes d'ambassadeurs, et pour l'instant, ça me paraît être quelque chose d'assez porteur. En tout cas, ce que je dis aussi, c'est que c'est une chance inespérée pour l'Embeil.
Et en devenant une petite ville de demain, l'Embeil confirme la revitalisation que vous avez engagée en fait, depuis plusieurs années, avant même d'être labellisée petite ville de demain, à travers d'importants projets. Il y a notamment l'adaptation du réseau d'assainissement à l'Embeil aussi, la réhabilitation d'infrastructures sportives et scolaires, et plus récemment, le nouvel EHPAD qui devrait sortir de terre, enfin qui est en train de sortir de terre, qui devrait être livré en 2022, si je ne me trompe pas.
C'est ça, il devrait ouvrir ses portes à l'automne 2022.
Ouais.
Et donc oui, vous le dites, c'est particulièrement important. Sans le travail qui a été mené depuis 2008 sur des choses qui ne se voient pas et qui ne sont pas toujours très agréables et très populaires à réaliser, notamment l'assainissement collectif et puis l'urbanisme aussi, avec l'aboutissement d'une étude de plan local d'urbanisme. Sans ces éléments fondateurs, Petite Ville de demain, on n'aurait pas... Peut-être que nous ne serions pas petite ville de demain, déjà, première chose, et on n'aurait pas non plus les socles ou le socle pour pouvoir espérer mener des projets que va nous permettre, j'espère, de concrétiser ce dispositif.
Alors maintenant, les fondations sont posées à l'Embeil. Une étude urbaine va prochainement être lancée sur le centre-bourg. Quels sont, selon vous, les nouveaux défis que l'Embeil doit mener pour renforcer son attractivité?
Alors cette étude... qui a été menée sur Pontac, qui a été menée aussi sur Morlas. Bon, on a un petit temps de retard, mais j'espère qu'on le rattrapera d'ici la fin du mandat. En tout cas, elle va arriver à point nommé, donc dans le contexte que je décrivais tout à l'heure. Elle va nous permettre d'avoir une vue un peu plus globale et assez exhaustive de l'état du centre-bourg de l'Embeil, des équipements publics, mais également des circulations, également du bâti vacant, bâti qui soit public ou qui soit privé, et souvent porté par du privé, c'est une difficulté importante. L'un des enjeux justement principaux, c'est la reprise et la remobilisation de ce bâti vacant qui permettrait d'offrir du logement de qualité, d'une part.
Mais du côté des commerces aussi, on
l'imagine. De restaurer le patrimoine ancien qui, je suis attaché à ça, mérite quand même tout le respect. Et respecter nos anciens, c'est aussi respecter le patrimoine qu'ils nous ont laissé. Et respecter nos enfants, c'est respecter aussi le patrimoine qu'on leur laissera. Donc oui, remobiliser pour du bâti, pour du commerce. Il y a aussi, alors peut-être pas, la pression n'est pas aussi forte à Capontax sur le commerce peut-être, mais il y a aussi des candidatures à l'installation pour du commerce de proximité, du petit commerce sur la place Marcadieu. Et la difficulté qu'on trouve régulièrement, à laquelle on se heurte, c'est l'état du bâti. Et donc il y a un gros travail à faire pour restaurer ce bâti-là.
Il y a également plusieurs secteurs qui ont été identifiés du côté de l'Embeil pour cette étude urbaine. On parle donc de la place Marcadieu, le cœur de la ville, avec les arènes, notamment à l'Embeil. Qu'est-ce que vous imaginez sur cette place Marcadieu?
Oui, alors les anciennes arènes.
Les anciennes arènes.
Le site emblématique...
Je me suis un peu emballé.
C'est ça, du XXe siècle de l'Embeil, on va dire. Bon, les anciennes arènes qui ont fait leur temps et puis qui ont... été démoli en 2009, ce qui n'a pas empêché la poursuite de l'activité phare de la course hollandaise malgré tout. Hein. Donc oui, on a identifié la place Marcadieu, bien sûr, on a identifié ce site des arènes qui est juste à l'arrière du bâtiment de la mairie, où là il y a pas mal de questionnements et où la concertation avec les ambassadeurs sera importante pour examiner les différentes idées et puis les différents scénarios qui pourraient conduire ensuite à un aménagement. Mais il n'y a pas que ça. À proximité immédiate, il y a aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, un projet de logement qui va enfin se réaliser. Et puis il y a une autre polarité dans la polarité, on va dire, qui est autour de la place du Foirail, qui est un peu plus à l'écart de la place Marcadieu, mais autour de laquelle on retrouve bon nombre d'équipements, l'EHPAD dont vous parliez tout à l'heure, qui est en cours de construction, qui est à proximité immédiate, le stade municipal, la salle des sports intégralement réhabilitée avec une extension, avec également, on est en train de terminer la requalification des abords de cet espace-là. Et puis à proximité, on trouve le collège, on trouve le groupe scolaire, l'actuel et le futur centre de secours, la caserne de gendarmerie. Donc c'est vraiment un pôle de service.
Très fourni, oui.
Et l'un des enjeux aussi de l'étude et des actions à mener, ce sera de créer du lien et de la cohérence entre ce pôle qui est un peu à l'écart de la place Marcadieu, l'EHPAD et la place Marcadieu.
Et le centre-bourg. Justement, vous parliez de projets. Quels sont les projets actuellement menés ou allant être menés très très rapidement à l'Imbeil, Jean-Michel de Serré?
Donc on a parlé de l'EHPAD, même si c'est bien évidemment pas un projet que porte la commune, elle n'en serait pas capable, qui est porté, qui a été initié par la communauté de communes il y a déjà une vingtaine d'années, et qui aujourd'hui, dont la construction est portée par un bailleur social qui est l'Office 64 de l'Habitat, qui est largement, très largement financé et soutenu par le département. Donc l'EHPAD, pour les mails, c'est un projet historique, ça va être la création d'une structure qui va à la fois apporter un service social très attendu et indispensable sur le territoire, et puis aussi apporter de l'économie, apporter de l'emploi, apporter de l'activité et contribuer à la redynamisation. Les autres projets portés là par la commune, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui a été un peu au long cours, c'est sur la salle des sports, qui est également quelque chose de très structurant, puisqu'utilisé tous les jours par les collégiens qui viennent de tous les villages alentours et qui viennent à l'Imbeil. Donc c'est un bâtiment public communal mis à disposition du collège, et donc c'est particulièrement important qu'il soit accueillant et fonctionnel.
Par les associations aussi, on l'imagine?
Et bien évidemment par toutes les associations, les clubs de basket, de pelote, voire même de rugby, quand ils ne veulent pas se mouiller pour aller s'entraîner, ils viennent le faire dans la salle des sports. Donc ça, c'est un projet communal qui a été important, qui s'est déroulé sur 4 années, également avec des soutiens financiers, je veux le rappeler aussi, de l'État et du département, très important. On a d'autres projets avec un nouveau centre de secours qui va être construit en 2022-2023, porté par le service départemental et donc là aussi à l'échelle du département, mais des projets qui sont bien évidemment accompagnés par la commune parce qu'il faut être en capacité d'accueillir de tels projets. Et puis on a un projet important pour conserver aussi un service qui, je crois, tient à cœur de la population et encore plus des élus, c'est le service de gendarmerie. Donc on va réhabiliter de fond en comble la caserne de gendarmerie qui va faire 50 ans cette année, qui en a bien besoin. C'est un bâtiment, un espace communal, donc c'est la commune
qui entretient
et qui donc va mener une grosse opération de réhabilitation qui va coûter 1 million d'euros pour faire en sorte que le service de gendarmerie puisse être maintenu à l'Imbeil et dans de bonnes conditions.
On l'imagine. D'autres projets, on parlait tout à l'heure de l'habitat, on n'a pas encore beaucoup parlé des locaux commerciaux. Il y en a beaucoup des locaux vacants à l'Imbeil. Vous aimeriez rendre au moins vivantes les vitrines de cette place Marcadieu. C'est quelque chose qui vous tient à cœur dans le projet Petite Ville de Demain?
Ah oui, ça fait partie c'est l'un des forts enjeux, l'habitat et le commerce. Donc j'en disais deux mots tout à l'heure. On a un projet porté par, là aussi, également l'Office 64 de l'Habitat qui va se concrétiser, un projet voulu par la municipalité depuis 10-12 ans sur un bien que la commune avait racheté à proximité immédiate de la mairie. Et donc on va voir la création d'une dizaine de logements locatifs sociaux. C'est certainement aussi un coup de jeune pour la place Marcadieu. Et dans la partie restante de cette assemblée immobilière que conservera la commune, on espère effectivement pouvoir créer un rez-de-chaussée, un logement commercial de qualité, alors avec un portage public ou peut-être avec un portage privé, puisque cet immeuble intéresse également
des commerçants
locaux.
Qui voudraient peut-être s'y installer. Un dernier mot peut-être sur les projets que vous avez actuellement à l'Imbeil en ce moment, monsieur de Serré?
Alors les projets, il y en a beaucoup. Peut-être trop, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 800 habitants, que c'est donc des moyens qui sont quand même limités, sans parler des moyens financiers, les moyens humains sont limités en termes de services municipaux. Donc oui, des projets, il y en a, il y a des réflexions permanentes, il y a des nouveautés régulièrement. Je n'aime pas trop en parler tant qu'ils ne sont pas trop mûris, parce que dès qu'on lâche un mot, en général, les gens arrivent à faire des phrases, des paragraphes et des pages entières sur des choses qui sont peut-être un peu, de temps en temps, pas très mûres. Donc je préfère les garder et attendre un peu avant d'en parler.
Je rappelle qu'avec nous dans ce studio, il y a toujours Joël Segault, maire de Morlaz, Didier Larrazabal, maire de Pontac, ainsi que Thierry Carrère, donc le président de cette communauté de communes Nord-Est Béarn. Question commune à tous les trois, sans le dispositif Petite Ville de demain, qu'est-ce que vous n'auriez pas pu entreprendre sur vos communes ? Sans ce dispositif, c'est une question assez importante parce que c'est un dispositif qui est bien ancré, mené par Alizé de la Mandrie ici aussi.
C'est un dispositif particulier puisque c'est une volonté de l'État. C'est des dispositifs qui sont avant tout financiers. C'est-à-dire que les aides sont là et à nous d'avoir des idées. Je pense qu'Alizé, qui a été, je dirais, j'aime pas trop ce terme, mais embauché à la communauté des communes pour nous guider et mettre en place une petite ville de demain avec les trois villes qui ont été fléchées, qui sont Morlaz, Lembeil et Pontac. Je crois que ça ouvre des portes. On n'a pas parlé tous les trois et j'allais en parler. C'est on a avec Petite Ville de demain, on a aussi le centre d'accueil qu'on a tous les trois. Je me perds le nom. Les Maisons France Service. Ouais. La Maison France Service. Je pense que c'est pas avec Petite Ville de demain, mais ça y contribue, c'est-à-dire que c'est facilitateur pour entreprendre des projets de revitalisation de centre-bourg. C'est avant tout la revitalisation de centre-bourg, c'est aussi l'aide à la personne telle que je veux le dire, avec la Maison France Service qui est hyper important.
Alors c'est quoi une Maison France Service, bah, monsieur Larrazabal?
Une Maison France Service, c'est tout simplement c'est une maison qui, pour citer par exemple Pontac, hein, qui va être pris en charge, qui va être aidé sur une durée de 3 ans par l'État, mais aussi par la communauté des communes, hein, concernant Pontac, puisqu'après je pense que peut-être que mes collègues en parleront, c'est pour offrir une offre de service aux gens qui sont éloignés des villes, de leur ville essentielle concernant Pontac, c'est Pau. Et comme le prend souvent l'exemple mon président, c'est de dire la personne qui veut, qui se pose une question, qui a besoin de renseignement à Pôle emploi, bah, il faut aller à Pau. Pontac Pau pour avoir un rendez-vous, c'est la matinée qu'il faut. Alors peut-être que aussi l'avoir sur place à Pontac, je veux dire, c'est quand même plus
c'est
rapide.
Un endroit où on centralise pas mal de services.
Ça coûte moins
en fait.
Cher. Donc il y a les services tels que sur la MSA, sur Pôle emploi, la CAF, enfin tous les services, la trésorerie, tous ces services que nous avions par le passé. Certains sont toujours à Pontac également, mais au moins là, ils seront affichés, ils seront clairement affichés, ils fonctionneront avec les ouvertures de la mairie. Ça sera du grosso modo 24 heures semaine, je crois, président, c'est ça, 24 heures semaine, où une personne sera détachée uniquement pour recevoir les gens qui auront besoin de se poser des questions et d'avoir surtout une réponse au lieu de faire des kilomètres pour aller chercher.
Alors ça sera à Pontac. Est-ce qu'on aura le même type de d'action sur Morlaz et Lembeil? Monsieur De Serry pour Lembeil.
Oui, la Maison France Service à Lembeil, elle est portée par le groupe La Poste. Elle a ouvert ses portes le 17 janvier. Donc,
c'est très récent.
C'est un accueil qui se fait dans les locaux du bureau de poste qui ont été spécialement aménagés et de façon assez qualitative par La Poste. Donc deux personnes en permanence, 24 heures par semaine. À Lembeil, c'est donc ouvert tous les matins de 9h à 12h, 6 jours sur 7, du lundi au samedi, et puis les mercredis et jeudi après-midi. Et donc ça permet effectivement aux personnes qui ont des difficultés, notamment qui ont des difficultés avec le numérique et toutes les démarches en ligne, d'être assistées, d'être aidées, d'avoir un premier niveau d'accompagnement, et ensuite d'être guidées vers le service auquel ils souhaitent faire appel.
Et du côté de Morlaz, monsieur Segault?
Alors du côté de Morlaz, la Maison France Service est portée par IUBA, donc qui est la mission locale qui intervient sur un territoire assez vaste et qui est située sur le fameux îlot de la Tour dont je parlais tout à l'heure, donc au centre d'un pôle médico-social. Et le fait d'être accueilli dans les locaux d'Ambition Locale, c'est aussi drainer un public qui a besoin des services qu'on citait à l'instant, et aussi à l'attention de publics qui habitent à Morlaix-Même ou en périphérie, qui nécessairement peut avoir besoin des services divers et variés. Et tout ce qui est numérisation, dématérialisation aujourd'hui, c'est important parce que beaucoup de gens n'y ont pas encore accès.
Justement, vous avez la parole, monsieur Segault, maire de Morlaix. Qu'est-ce que vous n'auriez pas pu faire sans ce label Petite Ville de Demain sur votre commune?
Déjà, en préambule, je dirais que Petite Ville de Demain, ça nous amène aussi un focus sur les polarités que nous sommes, sur le territoire également. Ça permet aussi de recruter, comme disait Didier Larrazabal, donc une chef de projet en la personne d'Alizé de la Monnerie, qui nous apporte beaucoup d'aide et d'accompagnement en termes d'ingénierie, mais plus largement en termes de pilotage aussi de projets, qui a su mobiliser des groupes d'ambassadeurs qui, comme on le disait, ont mené beaucoup de richesses et en amèneront encore demain pour le développement et la mise en place d'actions. C'est encore focus aussi sur tout ce qui a trait donc au logement, au commerce, peut-être avec des ouvertures sur des financements, sur des soutiens auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou on n'avait peut-être pas forcément la maîtrise. Donc rien que pour cela, je trouve que c'est un dispositif très intéressant. Qui plus est pour Morlaix, ça vient dans la continuité du dispositif ORT, donc opération de revitalisation territoriale, qui est en place depuis 2000, qui a démarré en 2019 avec une signature de convention en 2021, donc avec les services de l'État et la communauté de communes, et aussi focalisé sur tout ce qui est logement et domaine plus commerce de centre-bourg, avec tout ce qui est de logement via l'ANA, les dispositifs programme d'intérêt général, le PIC bien chez soi, France Rénov aujourd'hui, etc. Donc pour lutter contre la désertification, la vacance de logement, comme le rappelait aussi Jean-Michel Desserré, et contribuer donc un peu à la densification des centres-bourgs et retour aussi de l'habitat dégradé à une meilleure habitabilité.
Rapidement, pour clôturer sur ce dispositif, et ce que ça vous a amené du côté de l'Imbeil, du coup, monsieur Desserré, ce dispositif Petite Ville de Demain?
Alors, je disais que l'Imbeil n'était pas très riche et n'est pas très peuplé. Je pense d'ailleurs que l'Imbeil est peut-être détient le record du plus petit nombre d'habitants en France des petites villes de demain. C'est peut-être la plus petite des petites villes de demain. On ne doit pas en être loin, en tout cas, certainement. Et donc, avoir l'appui en termes d'ingénierie de la chef de projet d'Alizé de la Monnerie, c'est pour nous primordial. Et ça fait partie aussi des choses qui étaient quasi inespérées pour moi et pour la commune, et pour la municipalité, et pour mes collègues élus. Donc c'est déjà quelque chose de très important pour la commune, de pouvoir avoir quelqu'un qui nous apporte tout son savoir-faire, toutes ses connaissances, ses compétences, puis sa façon aussi, sa façon d'être, sa façon d'animer aussi le dispositif auprès des élus, mais aussi auprès des ambassadeurs et plus largement de la population. Donc ça, c'est déjà très important. La deuxième chose certainement nous n'aurions pas eu sans Petite Ville de Demain, c'est l'œil un peu plus centré sur l'Imbeil de la part des partenaires, les partenaires qui soient financiers ou qui soient porteurs, par exemple, de logements, hein, comme les bailleurs sociaux, etc. C'est certainement que ce dispositif a permis
un coup de projecteur
et de booster tous les partenaires vers les petites villes de demain, et entre autres vers l'Imbeil, et c'est très bien. On n'aurait peut-être certainement pas non plus engagé la concertation qu'on engage là avec les ambassadeurs, ça c'est quasi certain, parce qu'on a, non pas qu'on ne veuille pas le faire, mais c'est aussi, ça prend du temps, ça demande une organisation, et certainement qu'on n'aurait pas non plus engagé ce genre de choses, donc... Très globalement, moi, je n'y vois que du positif et vraiment des choses qui devraient nous aider à donner une autre image de l'Imbeil, mais également du territoire alentour et plus globalement de la communauté de communes, puisque ce dispositif, il s'adresse, c'est vrai, essentiellement aux trois communes, mais comme l'a souligné notre président Thierry Carrère tout à l'heure, il s'adresse aussi avant tout, et l'objectif, c'est de faire que les bienfaits rejaillissent sur l'ensemble du territoire intercommunal.
On parlait il y a un instant d'Alizé de la Monnerie. Je rappelle que vous êtes chef de projet pour les petites villes de demain. Alors, je ne trahis, je pense, aucun secret en disant que vous n'êtes pas du tout originaire du Béarn. Et pourtant, on vous s'est investi dans la redynamisation des villes de l'Imbeil, Morlaix et Pontac. Quand on vient de l'extérieur, qu'est-ce qui fait qu'on aime autant ce territoire ?
Alors effectivement, je viens pas du tout du Béarn, mais si je suis arrivée ici, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que j'adore la montagne, je trouve que c'est un territoire vraiment très très beau, et puis plein de promesses en fait, parce que il y a un potentiel énorme qui n'a pas forcément été exploité. Je veux dire qu'en termes de mise en valeur, on a encore beaucoup de choses à faire. C'est un territoire qui est de plus en plus attractif et qui a une identité qui est très forte. Et je pense que c'est la première de ses richesses, en fait. Cette identité-là, il faut la valoriser et la tourner vers l'avenir, vraiment, parce que ça n'est pas que du patrimoine, c'est aussi ce qu'on va en faire. C'est le patrimoine qu'on va créer pour demain. Et c'est ça qui va nous permettre, voilà, d'améliorer son attractivité. On a plein de villages qui sont dans l'air du temps, qui sont à taille humaine, qui sont proches de la nature. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur aujourd'hui.
C'est en tout cas ce que vous vous efforcez à faire grâce à votre rôle de chef de projet pour les petites villes de demain. Avant de terminer cette émission spéciale Petites villes de demain, peut-être le mot de la fin, comme ça. Thierry Carrère, vous êtes donc le président, hein, de l'intercommunalité Nord-Est Béarn. Mot de la fin peut-être pour vous.
Bah écoutez, le mot de la fin, nous avons eu un échange très nourri ce matin. Vous vous rendez compte que nous avons trois élus, trois maires extrêmement engagés avec leurs équipes municipales. Je tenais à saluer aussi l'engagement d'Alizé qui a pris à bras le corps ce défi. Petite ville de demain a apporté aussi, je pense, auprès de ses communes, mais au-delà, auprès de la communauté de communes aussi, une nouvelle méthode de travail avec beaucoup plus de transversalité. Un appui très clair en direction de ces communes pour leur permettre de tracer leur feuille de route, la feuille de route de leur développement. Nous, ce que nous espérons aussi, c'est que nos interlocuteurs, nos partenaires soient au rendez-vous, notamment dans le cadre des accompagnements financiers qu'on nous a laissé miroiter, je pense notamment à l'État, mais nous serons présents pour rappeler ces engagements le moment venu. Et effectivement, je rebondirai sur ce que vient de dire Alizé, notamment sur notre territoire. Nous avons un territoire avec un potentiel extraordinaire. Et les premiers qui devront en être convaincus, c'est nous-mêmes. Se rendre compte qu'effectivement, nous avons la chance de vivre sur un territoire qui a des atouts extraordinaires, une histoire, une identité, mais aussi une dynamique. Nous sommes un territoire jeune. Nous sommes l'un des territoires béarnais qui accueillons le plus de renouvellements de population tous les ans. Nous avons des courbes démographiques qui vont à la hausse. Nous avons une dynamique économique, nous avons des services. Tout ça, il faut le conforter, le valoriser, le faire reconnaître. Et tout ça pour le bien de nos habitants. Et effectivement, à travers de Petites villes de demain, c'est aussi tirer vers l'avant l'ensemble de notre territoire, l'ensemble des autres communes. Parce qu'il y a encore 70 autres communes dans ce territoire qui aussi ont des envies, des ambitions légitimes. Et tout ça doit nous permettre de faire bouger ce territoire comme il se doit.
Il fait bon vivre sur ce territoire, il fait bon vivre à Pontac, comme vous aimiez le dire, monsieur Larrazabal, maire de Pontac. Le mot de la fin pour vous ?
Oui, le mot de la fin, avec tout ce qu'on a entendu ce matin, effectivement... Si Petite ville de demain n'était pas fléchée à Pontac, comme je crois avec mes deux amis à Limbeil ou à Morlas, ils s'en expliqueront. Je crois qu'on a des obligations, ça nous a boosté. Ça nous a boosté et on tire les choses par le haut. Donc forcément, c'est beaucoup de travail. Je reconnais, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement humain, beaucoup d'attention, beaucoup de d'écoute. Hein, et la venue d'Alizé, notre chef de projet, effectivement, on peut s'appuyer dessus. Et ça, c'est important pour les maires. C'est très, très important. Donc, je ne vois pas le bout du tunnel avec tout ce qu'il y a à faire. Je sais que le mandat va être passionnant. Je crois que c'est le troisième mandat me concernant, j'ai jamais eu autant de projets dans ma tête et divers et variés. C'est vraiment très sympa, va falloir tenir, mais bon, on est là pour gagner, il n'y a pas de souci. Et je voudrais rajouter, sans brosse à reluire, c'est que aussi ce qui est important, c'est qu'on est dans une communauté de communes qui est dynamique. Je crois qu'on peut s'appuyer, ça m'a permis d'avoir un lien social, de connaître mieux Joël Segault, de me connaître mieux aussi Jean-Michel Desserret. sur lequel on est tous les trois concernés, on peut se consulter, on peut en parler, on peut échanger, et ça, ça crée un lien social. Et évidemment, notre président Thierry Carrère, que lorsqu'on a le besoin, il est toujours là aussi pour nous donner la main et répondre à nos attentes.
Joël Segaud, c'est votre premier mandat à Morlas. Le mot de la fin concernant les petites villes de demain, vous imaginez quand vous avez été élu l'an dernier à Morlas, enfin il y a 2 ans maintenant, même, parce que c'était en 2020, on est en 2022, vous imaginez avoir tous ces projets à mener ?
Disons que je suis parti avec déjà beaucoup de projets, donc ceux-là se sont rajoutés à ceux qui existaient déjà. Et après, l'ambition qu'on a, tout en restant humble, c'est de les réaliser le plus rapidement possible. Ce que j'ai appris en tant que nouvel élu, c'est qu'on ne pouvait pas aller aussi vite qu'on ne pensait. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que ce qu'on ne pouvait pas faire quand on était élu. Et ça, ça a été ma première leçon quand je suis arrivé à ma fonction. Donc après, oui, petite ville de demain, je pense que c'est un boost pour nous, pour les polarités, pour la polarité que nous sommes. Mais je situe bien cela dans notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle, partie du projet Morlas 2030, donc j'ai fait le choix avec mon équipe municipale d'y amener une nouvelle dénomination qui est Morlas 2030, cœur d'un territoire en mouvement. Parce que je ne le vois pas autrement que ça. Je pense que Petite Ville de Demain, ça a contribué aussi par les actions menées par Alizé, mais par nous trois aussi, et le président et l'équipe aussi, de créer du lien vraiment entre nous. Je suis élu à la mairie de Morlas depuis 2 ans, effectivement, mais j'étais élu communautaire à partir du moment où de la fusion entre les 3 anciennes communautés des communes, et je trouve vraiment le changement qui est lié au changement de gouvernance, à ce qu'a pu, je passe un peu le brosse à relure, mais je le pense sincèrement, à Thierry Carrère qui a pu impulser ce nouveau dynamisme, ce nouvel élan à cette communauté de communes. Et ça, c'est très très intéressant, il faut vraiment l'encourager, le développer. Mais derrière tout ça, c'est le dynamisme de nos communes respectives, mais qu'il faut faire rejaillir aussi auprès des communes autour des nôtres, et notamment les petites communes qui peuvent se sentir un peu délaissées. Nous avons tout un travail à faire justement pour les associer à cette démarche, et cette dynamique grâce à Petite Ville de Demain. En particulier, pour gérer tout le monde autour de ce territoire.
Excusez-moi, voilà. Pardon Joël Segaud. Non, je pensais que vous aviez terminé, Jean-Michel de Serré. Le mot de la fin, côté Limbeil.
Côté Limbeil, alors ce que je veux dire, oui, je suis sûr que ça s'applique à Limbeil, que ça doit s'appliquer, et certainement que ça doit s'appliquer à l'ensemble du territoire. Moi, ce qui me paraît particulièrement intéressant, et en tout cas ce qu'aura permis Petite Ville de Demain, c'est d'élargir le dialogue, la concertation, et de faire que plutôt de nous faire prendre conscience de la chance que nous avons, des richesses que l'on a autour de nous, au quotidien, que ce soit à Limbeil ou que ce soit ailleurs sur le territoire, du cadre de vie que l'on a. Et je pense que l'un des objectifs aussi, c'est de faire en sorte que nous, élus, mais aussi la population, nos administrés, nos citoyens, s'approprient ces choses-là et deviennent acteurs de l'évolution de notre territoire pour demain. On n'y arrivera pas tout seul, c'est pas le maire qui va y arriver tout seul, c'est même pas le président de la communauté de communes, même si on vient d'entendre tout un tas d'éloges, je pense que tout seul il n'y arrivera pas, et personne n'y arrivera tout seul, c'est vrai, c'est véritablement une affaire collective, et donc je pense qu'il faut que l'on continue dans ce sens, à essayer d'impliquer au mieux la population pour tirer le meilleur bénéfice de Petite Ville de Demain. Et l'objectif, à Limbeil en tout cas, c'est de faire que le passant, qu'il soit de loin ou qu'il soit de tout près, ait encore plus envie de venir à Limbeil et d'y rester.
Cette émission spéciale touche à sa fin. Merci à nos invités. Alizé de la Monnerie, chef de projet Petite Ville de Demain à la communauté de communes Nord-Est Béarn. Merci.
Merci.
Merci à Thierry Carrère, président de la communauté de communes Nord-Est Béarn.
Merci de m'avoir reçu.
Merci Didier Larrazabal, maire de Pontac.
Merci Julien, et joyeux anniversaire pour les 10 ans de Pontac Radio dans quelques jours.
Quelques semaines, ce sera le 4 mars.
Le 4 mars.
Monsieur le maire. Monsieur Segaud, Joël Segaud, merci d'avoir été avec nous.
Merci Julien de nous avoir reçus, très bien accueillis. Et félicitations pour tout ce que vous faites pour ce 10e anniversaire. Et venez un peu plus souvent vers Morlas.
Eh bien, on y vient avec grand plaisir, ouais. On continuera
vous
à y
serez
venir.
Les bienvenus.
Merci Jean-Michel Desserré, maire de Limbeil, d'avoir été avec nous.
Merci à vous et merci à Pontac Radio. Vous serez également, bien évidemment, quand vous le souhaitez, bienvenue à Limbeil.
On vient également avec grand plaisir du côté de Limbeil. À noter que toutes les infos sur les petites villes de demain sont en temps réel sur le site internet de la communauté de communes, donc www.cc-nordestbearn.fr. Et puis la page Facebook de Pontac Radio se fait également l'écho des actions menées à Limbeil, à Morlas et à Pontac. N'hésitez pas à aller y jeter un œil.
Podcastez cette émission sur pontacradio.fr.